L'association La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Silly.
Et à tous, nous voici donc pour une nouvelle année et bonne année à tout le monde.
Bonne année,
meilleurs vœux.
Voilà, donc on est trois aujourd'hui au micro.
Oui. Je sais pas pourquoi, je pense.
Oui, qu'est-ce que tu es venu faire là, toi, au fait?
Oh, d'écoute, moi j'ai vu de la lumière, je suis entrée.
Voilà, c'est ça y est, on dit, et oui, encore sans papier, voilà.
Mais non. Il y a des papiers, tout est en règle, il n'y a pas de problème. On est donc pour une heure et demie d'émission avec aujourd'hui une rétrospective du voyage que deux d'entre nous ont fait au Sénégal en novembre-décembre.
Et en l'occurrence ?
En l'occurrence, Angélique et moi-même.
C'est moi.
Voilà, donc on n'aura pas de lecture.
Oui, c'est ça. C'est pas seulement parce que j'ai vu de la lumière, finalement.
On n'aura pas de lecture, donc ce soir, Anne-Marie n'est pas là. Mais par contre, on a plein d'autres choses à vous faire entendre. Et pour commencer, on va se mettre dans le bain, puisqu'on est parti en Afrique avec une pause musicale. À moi l'Afrique. Eh bien, on y va.
Rouge et jaune colorié, par la main d'un écolier, en madras, en tablier. À moi l'Afrique. Les seins lourds de tes nourrices me rappellent les délices d'une enfance qui résiste. À moi l'Afrique. Mangeant des noix de cajou, flirtant le soir à genoux, comme la liane enroulée avec le singe des blés. Au rythme fou des sorciers, sous des rubans de papier. À moi l'Afrique. Mon enfant se retrouvait, tu te reprends à rêver, tous tes livres, ils étaient vrais. À moi l'Afrique. Voilà les fruits et les fleurs, les sources bleues, les couleurs, les pagnes et les colliers, au palan des chameliers. Parfum, l'odeur du thé au jasmin monte à portée de la main. l'Afrique. Et face aux tentes rayées, en plein désert appuyé, j'ai le cœur débarbouillé. À moi l'Afrique. Tout redevient neuf et beau, mon âme marche en sabots, mes bras s'ouvriront demain, l'avenir n'est pas si loin. À moi, à moi, à moi, à moi l'Afrique.
À moi l'Afrique.
Oui, donc pour illustrer hein, ce début de voyage. Alors, de quoi s'agissait-il en fait, Angélique, on est parti là-bas faire du tourisme de masse?
Ah non, pas du tout, sinon on a eu.
Sinon on serait pas là.
Sinon on serait pas là pour en parler. On aurait fait 10 minutes et encore. Non, on est parti dans un cadre bien précis et bien défini, une belle initiative de la part d'ICD Afrique.
Oui, qu'il s'agissait donc de permettre en fait à des personnes déficientes visuelles d'aller sur les séjours touristiques qu'ils proposent sur leurs divers projets, puisque ICD, c'est une organisation non gouvernementale qui fait des projets de coopération et de développement en Afrique. Et donc au Sénégal notamment, au Bénin et en Algérie, je crois aussi. Oui. Et donc qui proposait aux touristes que nous étions... quand même, de venir voir ces projets. Et puis aussi, le voyage a permis d'apporter un certain nombre de matériel. Alors puisqu'on parle de présenter, parce qu'on n'était pas tout seul quand même, hein, il y avait Angélique et moi, mais on était plusieurs autres, on va commencer par présenter les divers voyageurs. Allô
oui.
Avec donc le...
Voilà. J'ai découvert ICD Afrique par Henri Dalbès, le président de l'association, qui est un ami, voilà, qui m'en parle depuis très longtemps. Et puis cette année, il m'a parlé de ce projet de voyage avec des déficients visuels et qu'il pouvait y avoir des accompagnateurs voyants. Je me suis dit que j'aimerais bien y aller, donc voilà, j'ai suivi le voyage et... Et j'en suis très contente.
Je suis Cédric Pedrosa, j'ai 30 ans, je suis déficient visuel, donc depuis la naissance. Et donc j'ai choisi de faire un séjour humanitaire solidaire au Sénégal pour découvrir c'était la vie là-bas.
Je suis Myriam Amara, j'ai 30 ans et je vis à Paris. Mes motivations pour ce voyage, bon, elles sont simples. D'une part, de nature, j'ai le goût du voyage. Et l'Afrique, c'est une destination qui m'a toujours interpellée. Parce que bon, quand on a la curiosité des autres cultures... C'est vrai que l'Afrique, c'est un peu la porte ouverte à un peu tous les fantasmes les plus délirants. Ça rappelle quelque chose d'un peu sauvage, d'un peu tribal, etc. Donc la culture, l'Afrique, ça m'a toujours attiré comme continent. Donc quand j'ai eu cette opportunité de partir avec ICD Afrique, que j'ai connue par connaissance, par un des voyageurs, un autre voyageur qui a fait également ce voyage, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité, et surtout dans ce contexte-là, quoi, dans le cadre d'un voyage solitaire. J'ai trouvé que c'était vraiment un cocktail qui me convenait parfaitement de faire à la fois du tourisme et de m'impliquer solidairement dans le pays que j'allais visiter.
Marie-Laure Seplet, donc depuis plusieurs années, j'avais vraiment envie d'aller en Afrique pour pouvoir aider la population. J'avais d'ailleurs eu l'occasion d'avoir la proposition pour aller faire une mission au Burkina Faso pour pouvoir aider des enseignants qui accueilleraient ensuite des enfants déficients visuels. C'était une mission qui à la base durait un an. Moi, je ne voulais pas y aller seule, je voulais y aller avec un ami. L'association française qui s'occupait de ça nous avait recruté parce qu'on comprenait bien en effet que je ne veux pas y aller tout seul et que je veux y aller avec un ami voyant. Par contre, au Burkina, ils voulaient absolument qu'une seule personne, qui soit déficiente visuelle, etc. Donc, ils ne nous ont pas retenus. Donc, moi, c'est vrai que j'étais restée un petit peu sur cette image en me disant, mais comment je vais faire? J'ai envie vraiment d'aller faire quelque chose en Afrique. Et ensuite, donc, j'ai connu ICD Afrique par l'intermédiaire du cousin de cet ami-là, justement, et qui lui-même avait été volontaire pendant 8 mois avec ICD Afrique. Et donc, grâce à lui, j'ai pu partir au Sénégal faire ce séjour.
Voilà, donc ça, ce sont les voyageurs qui sont partis de France. Il y avait également Sylvaine, que je n'ai pas réussi à avoir au téléphone. Et puis Violaine aussi, qui, elle, venait de l'association ICD. Et puis Henri, le président, donc Henri Dalbiès, dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il y avait aussi les gens au Sénégal qui nous ont accueillis. Et je vous propose de revivre un peu avec nous notre arrivée à Dakar.
Ah, Maïno. Allez. Monsieur, vous venez d'où ?
Je viens de Paris, là.
Monsieur, vous venez d'où ?
Oui, je viens de France.
Oh. Ça alors. Bonsoir. Ça va?
Ça va.
Et vous venez d'où?
De Marseille.
Vous êtes?
Angélique.
Angélique?
Oui.
Ah,
enchantée.
Et vous?
Moi, je suis Dorothée.
Dorothée, vous venez d'où?
Marseille aussi.
Ah, c'est bien.
Oui.
Enchantée de faire votre connaissance. Et vous, mademoiselle?
Je suis Marie-Amalia, stagiaire à l'ICD.
Ah, donc vous êtes au Sénégal.
Oui.
Et elle vient d'où?
Moi, je viens de Riyad, je suis Roxane.
Ah, c'est bien.
Moi, je suis Violaine et je viens de Marseille.
Ah, enchantée. Bienvenue au Sénégal.
Merci.
Et vous?
Moi, je suis Daba.
Uh-huh.
Je fais partie de l'ICD.
Oui. Vous avez peur de la caméra?
Non. Ah, voilà.
Un petit peu.
Donc,
si.
Oui. Vous, qu'est-ce que vous faites ici?
Moi, je suis de bien accompagner nos amis qui sont là.
Oui.
Et on les attendait avec impatience.
Ok. C'est bien. Bienvenue à Espace Tchali.
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup. Très heureux d'être ici.
Ok.
Je sens que ça va être une expérience très, très, très enrichissante.
On espère.
Ah oui. Non, c'est clair. Ça
va, votre voyage?
Oui, ça va.
Alors, quelle impression? Vos premières impressions à la descente d'avion?
Plus chaud qu'à Paris.
C'est clair.
Marie-Laure, et toi?
On est au Sénégal, on le sent bien.
Et Cédric?
Total dépaysement. Déjà en descendant de l'avion au niveau de la température.
Uh-huh.
Et après, arrivé ici à l'espace Tchali, hop, descendre du sable au pied et tout, ça fait déjà rêver. Un accueil qui commence à être très enrichissant, chaleureux.
Donc,
très épanoui. Voilà.
Merci beaucoup.
De rien.
C'est bien.
Elles ont déjà mangé dans l'avion, mais elles vont boire un petit peu et on va pouvoir les installer dans leur chambre.
Mais bon appétit.
Oui, effectivement. Donc, on est arrivé, en fait, il était Nous, on était arrivés dans l'après-midi, en fait, hein, je crois, en fin d'après-midi.
19h30.
Oui, c'est ça. Ouais. Et puis les autres, ils étaient arrivés un peu plus tard, je crois. Et donc, du coup, on s'est retrouvés tous à l'espace Diali. Avec... Ça, c'est extrait, en fait, de... Ces deux morceaux-là sont extraits de vidéos qui ont été prises par donc Jules
et Boubacar.
Et Boubacar.
On entend sur la
qu'on vidéo. Entend sur cette...
qui interroge. Qui est président de l'antenne, hein.
Oui, c'est lui c'est qui est effectivement, c'est Boubacar qui est président de enfin qui est coordinateur en tout cas de l'antenne au Sénégal de DICD qui coordonne tous les projets au niveau local. Et donc
on a entendu le guide qui répondait aux questions. On a entendu Jules le chauffeur, Abdou et
tout Mariama à fait
et Daba, les guides.
Les guides qui nous ont suivis, qui avaient été formés, dont on reparlera tout à l'heure. Mais puisqu'on parle de Jules, ben on a écouté pas mal de musique au Sénégal dans son camion. Et entre autres, ben, la pause qui vient. Ah non ? Si ? Oui, c'est ça.
La femme de mon patron est tombée amoureuse de moi. Elle m'a proposé de devenir son amant. Elle est riche et elle est belle, mais moi je ne veux pas de problème. Son mari c'est mon directeur, moi je suis son chauffeur. Si je deviens l'amant de la femme du patron, c'est dangereux. Malgré leur beauté angélique, quand une femme est amoureuse, elle devient très dangereuse. La femme du patron m'a dit si je refuse, elle ira dire à son mari que c'est moi qui lui fais la cour. Même si je suis innocent, j'aurai de gros ennuis. Situation, je ne trouve pas de solution. Car dans cette affaire, moi je ne sais plus que faire. Et puis dans tous les cas, je n'ai pas tellement le choix. Si je dis oui, c'est imprudent à cause du patron. Mais si je dis non à la femme, elle va se venger.
Voilà donc Daouda, que l'on dit le sentimental, d'après les indications que j'ai pu avoir. C'est un chanteur, en fait, qui est né au Burkina Faso, mais qui est de nationalité ivoirienne. Et donc, il a quelques albums à son actif. Et on peut notamment avoir un best-of sur certains sites de téléchargement, que je ne nommerai pas puisqu'on ne fait pas de pub. Mais il y a effectivement des albums en téléchargement possible ou en écoute sur divers sites. Voilà. Donc, entre autres choses, on a entendu ça. Et effectivement, ça... un petit clin d'œil au chauffeur. On continue avec donc, les aspects touristiques de ce voyage. Et donc, on va reprendre nos voyageurs qui se sont présentés tout à l'heure et qui vont nous expliquer qu'est-ce qu'ils ont pensé de ces aspects touristiques du voyage, puis de l'expérience, de la richesse humaine qu'il y en avait.
Finalement, on n'a pas fait tant de tourisme basique, j'allais dire. C'est pas le terme, mais on n'a pas visité tant de coins visités habituellement par les tourismes de masse. On a fait l'île de Gorée, qui est quand même, je pense, un centre d'intérêt incontournable au Sénégal. Et même si c'est un endroit qui est quand même assez... riche historiquement, enfin lourd de sens par rapport à l'histoire, c'est pas forcément l'endroit qui m'a le plus plu, parce que justement je trouvais que ça avait un aspect un peu trop théâtral, un peu trop organisé pour les touristes. Donc comparé avec ce qu'on avait vécu justement dans la brousse ou dans des endroits beaucoup moins touristiques et beaucoup plus authentique. Je me suis un peu sentie en décalage, même si bien sûr l'intérêt d'y aller était complètement, complètement légitime, et je suis très très heureuse d'y être allée. Mais voilà, donc c'est pas forcément les centres d'intérêt touristiques traditionnels et conventionnels qui m'ont le plus marqué finalement. Ce qui m'a le plus marqué, ce qui me restera le plus en mémoire, c'est vraiment les moments qu'on a passés auprès de la population, en brousse. Donc voilà, c'est vraiment cet aspect-là du voyage qui m'a le plus intéressée. Ouais.
Les balades m'ont beaucoup plu, surtout celle du parc du Nyokolo-Koba. Mais ensuite, ce qui m'a le plus apporté, c'est quand même les rencontres humaines.
Alors moi, ce qui m'a le plus plu, c'est cet aspect non pas touristique, mais justement les rencontres avec la population locale. Ce qui m'a permis justement de mieux apprécier le pays, de plus voir réellement les difficultés que peuvent rencontrer la population et justement me faire en fait bien l'idée de ce qui pouvait être envisagé, de réellement leurs besoins, etc. Et aussi peut-être effacer cette image que je pouvais avoir négative, ce regret en fait, hein, parce que c'était pas une image négative, c'était plus un regret de ne pas être parti au Burkina Faso. Après, j'ai envie de dire, c'est tout à fait intéressant de faire un petit peu de tourisme à part entière, hein, parce que ça permet aussi réellement aussi de constater comment eux, ils envisagent le tourisme. Bon, là, par exemple, on s'aperçoit que sur l'île de Gorée, de la même manière qu'à Dakar, on sent bien que le touriste, on est malgré tout quand même les bienvenus, ce qui est tout à fait légitime, puisque quelque part, c'est aussi grâce aux touristes qui peuvent vivre.
C'était une expérience très, très enrichissante sur tous les points de vue. Hein. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de comparaison avec l'Europe. C'est un monde, on pourrait dire, à part, avec leurs moyens, qui sont moindres que les nôtres, mais une très grande hospitalité derrière tout ça. Et ça, on sent que c'est très chaleureux et que ça vient du cœur. La fête, notamment... dans un petit village de Badi, hein, qui est au sud-est du Sénégal, donc entre Tambacounda et Dialakoto. Une fête, je m'attendais pas du tout. Ça m'a fait chaud au cœur, cette fête monopolisée tout un peuple d'un village pour un groupe de Toubab. Donc il me semble qu'on était 14, quelque chose comme ça. Une réception, c'est franchement inoubliable. Ils nous avaient réservé également un repas qui finalement on n'a pas pu le partager avec eux comme on était attendu à Dialakoto, au campement écotourisme où on logeait pendant quelques jours. C'est des moments très forts, quoi. Ces paysages qui sont totalement différents, que je ne connaissais pas, cette faune, cette flore, et la pureté de la nature, toute cette nature qui est à certains endroits bien préservée, comme le parc du Niokolokoba, qui est quand même, il faut le savoir, le poumon du Sénégal. Par contre, à d'autres endroits, ce qui m'a marqué, c'est la pollution au niveau des déchets au bord des routes. Ça gâche un petit peu ce paysage, mais j'en reste pas là, parce que j'ai vraiment vu des super choses. C'est un pays très contrasté entre le sud-est et sud, qui est très verdoyant, hein, et la partie plus centrale, nord, nord-est, qui est plus aride, plus sèche. J'ai beaucoup aimé. J'ai fait également pas mal de photos, donc qui vont être un souvenir. C'est grâce, je pense, aux vidéos, aux photos, aux bandes sonores, que les gens, ils peuvent vivre un petit peu, hein, vraiment, je dis un petit peu, ce qu'on a vécu, nous, quoi.
En guise d'illustration, et avant qu'Angélique réagisse, je vous propose justement une des petites visites touristiques qu'on a faites, celle du grand baobab, un des grands baobabs du Sénégal.
Et là, vous êtes devant les baobabs du Sénégal. Il fait 32 mètres
de... Et ces gens-là, chaque fois, s'ils sont morts, on ne les enterrait pas sur terre. Et on les momifiait toujours dans les baobabs, comme celui-là. Et pourquoi on le momifie à l'intérieur du baobab? Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas religion catholique ni musulmane. Il n'y avait que d'animistes. Et puis ça rendait la terre mauvaise et on n'avait pas les bandes de colt. Parce qu'ils n'aimaient pas travailler la terre. Donc on disait que comme les griots n'aimaient pas travailler la terre, et si on l'enterrait sur la terre, et on n'avait pas les bandes de colt. C'est pour cela qu'on le momifie à l'intérieur du baobab, comme celui-là. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et puis il y a les gens qui pensent qu'avec les bois, on peut sculpter pour faire des objets, comme des masques, sinon des pyromènes. Le bois est espongé, quoi. On ne peut pas sculpter. Le bois est friable, quoi. Mais quand même, avant l'arrivée des Français, ça me faisait des cordages avec la corse pour attacher les bétails, quoi.
Cédric, tu t'en vas, qu'on enlève le sac. Enlève, si tu veux y entrer, enlève le sac.
Oui, on va l'enlever.
Regarde, jambe gauche. Attends qu'il rentre d'abord. Attends, Cédric.
J'en vais pas sortir, moi.
Cédric, jambe gauche à l'intérieur du trou. Oui, complètement.
Encore.
Et tu poncales la tête, tu baisses la tête complètement. Non, tu baisses la tête. Complètement encore. Encore. Tu passes pas, hein? Oh, tu passes pas.
Je passe pas, Cédric.
Toi, tu es. Ah! Qui font qu'elle l'aide?
Je vais pas passer. Je vais rester bloqué.
Moi, je t'en ferai bien.
C'est large.
Bon, moi, je peux passer.
Myriam, attends. Ouais, attends d'abord. Je te montrerai comment tu rentres.
Allez.
Jambe gauche, complètement. Complètement. Encore. Encore. Baisse la tête.
Oui, mais pas à l'île.
Baisse la tête.
Ah, il y a des problèmes de
hanche.
Ça va? Ça
peut
être
plus bizarre,
moi je suis.
Ouais, attends, je fais.
Je sais pas qui.
Vous voulez pas venir?
C'est bon?
C'est bon?
Ça vaut le coup, mais c'est sportif.
Voilà la remarque de Marie-Laure qui est magnifique. Ça vaut le coup, mais c'est sportif.
Ah oui, c'est vraiment sportif. On voyait, on devait entrer par un petit trou. Je peux pas dire le diamètre, mais c'était tout petit. Il fallait qu'on se contorsionne pour entrer là-dedans. Et une fois qu'on y était, ça faisait comme une pièce. On était bien 8-10 là-dedans, sans problème. Et on était surplombé par ce que vous avez entendu à la fin, c'était des chauves-souris. Et il y en avait des centaines apparemment qui étaient suspendues là-haut. Et si on se mettait un peu trop au milieu de la pièce et pas contre les parois, on recevait du pipi de chauve-souris dessus. C'était pas sympathique.
Non, moi je suis pas rentrée là-dedans parce que je me suis dit que j'allais encore moins y arriver que Marie-Laure avec les problèmes de dos que j'avais. Là. La colonne, comme elle est pas très, très souple, je me suis dit qu'il valait mieux que je tente pas l'expérience. Donc j'ai pas tenté ça.
Moi je regrette pas de l'avoir fait, mais c'était une expérience assez originale.
Oui, tu disais que par rapport aux réactions des autres voyageurs, il y a des choses à dire sur les aspects justement touristiques de ce voyage ?
Oui, ben, je trouve ça intéressant d'avoir les avis des voyageurs, comme quoi chacun se fait son avis propre et a ses réserves, ses points, les points positifs. Et enfin, moi, l'île de Gorée, c'est vrai que ça avait un aspect assez touristique. Ça sentait que c'était fait pour accueillir des touristes. Et pourquoi pas, hein, moi je veux dire, s'ils peuvent vivre de ça, après tout, pourquoi pas. L'esclavage, ça existait, quoi qu'on en dise. Et moi, j'étais vraiment très émue de... Ben, de
oui, puis les guides sénégalaises, elles étaient très émues aussi, hein, Daba et Mariama, je crois que ça les a beaucoup touchées aussi.
Moi, j'étais vraiment... Enfin, je sais pas, ça a fait comme une sorte de devoir de mémoire. Alors, j'aime pas trop ce mot, mais... vraiment, j'ai ressenti, ça m'a vraiment ému d'aller là-bas. Pourtant, malgré tous ces aspects que j'ai quand même bien notés, touristiques et tout ça. Mais
c'est vrai qu'à Gorée, on a été harcelés par les marchands qui vendaient ceci, qui vendaient cela. Oui. C'était hallucinant. là, on ne peut pas vous faire écouter tout, mais on fera sans doute un reportage un peu plus long, audio. Et là, il y a des. Justement. Les maracas qui invitent les passants à s'arrêter pour acheter tous les petits colliers, tous les petits objets divers. Et les marchands, justement, nous ont escortés. Je disais harcelés, c'est peut-être un peu méchant, mais ils nous ont vraiment escortés pendant tout le temps qu'on est passé sur Gorée. Y compris pendant le temps du repas, où presque il a fallu ce gendarmer sérieux pour pouvoir manger un peu tranquille, sans le bruit continu des maracas. Et tac, tac, tac,
oui,
tac,
je pense
tac,
que,
tac.
Voilà, on l'a vécu assez... Enfin, comme disait Myriam très justement, on n'avait pas vécu vraiment ça auparavant dans le séjour. On avait vécu des choses... assez dans notre petit groupe, dans notre bulle, on avait rencontré des gens très impliqués, on avait visité des projets, on avait...
Oui, on va en parler d'ailleurs.
Voilà, mais voilà, et du coup, c'est vrai que ça nous a montré un peu le côté touristique. Et
ce baobab qui faisait 32 mètres, c'est quoi? C'est la circonférence?
C'est oui, c'est la circonférence. C'est la circonférence. 32 mètres de circonférence.
Oui. Ouf. 850 ans. Et
non, c'est vraiment un gros. Puis bon, on est allé également dans le programme pour en parler un petit peu quand même. Il y avait donc beaucoup de projets qui étaient dans la province de Tambacounda, dont on va parler tout à l'heure. Et puis, on a fait donc, sur la fin, plutôt du tourisme, puisqu'on est allé... Enfin, d'une part, on est allé dans le parc du Nyokolokoba pour voir un certain nombre d'animaux.
Oui. Faire
de la pirogue également. On a vu des phacochères, des guibarnachés,
beaucoup de
crocodiles aussi sur la rivière. On nous a déconseillé de mettre la main dans l'eau, d'ailleurs. Et puis, on a vu aussi diverses... on a vu une panthère aussi qui était encagée parce qu'elle avait été, en fait... sa mère avait été tuée, je crois, par des braconniers. Du coup, elle avait été recueillie par les gardes du parc. Et puis, on a fait également un peu de tourisme dans le Siné Saloum, où on a été dans les chambres d'hôtes qu'a mise en place Anna Senghor, donc la petite nièce, je crois,
oui.
Du président de l'ancien président du Sénégal. Et effectivement, là, c'est plutôt du tourisme. C'est un campement, c'est plus un campement, c'est presque un hôtel 3 étoiles, quoi. Donc voilà. Mais j'ai pas voulu m'arrêter sur ces aspects-là, puisque c'était quand même les projets qui étaient les plus intéressants. Et on va donc faire une petite pause, et ensuite, on parlera des projets solidaires.
Ouais, alors donc une pause qui va pas nous mener au Sénégal, puisque j'ai très peu de musique sénégalaise, même pas du tout, je crois. Et donc je vous propose de partir un peu plus loin, à Madagascar, pour entendre l'ensemble Anakara, qui va nous interpréter les Anaka.
Donc, c'est une pause qui nous a entraînés à Madagascar, mais on va revenir tout de suite au Sénégal pour parler cette fois donc, des projets du voyage solidaire. C'est quoi d'abord un voyage solidaire? Et puis, les divers projets qu'on a pu visiter, qui ont marqué les voyageurs. Oh. Ah. Qu'est-ce qui se passe ?
Ma définition du voyage solidaire. Alors, ma définition du voyage tout court, déjà de mon point de vue, c'est d'aller visiter un pays, certes, mais c'est d'être au plus proche de la population et de la culture du pays pour vivre un peu en immersion dedans, pour s'imprégner pleinement du pays, de la culture, etc. Donc ça, c'est mon point de vue du voyage. Ensuite, le voyage solidaire, eh ben, à ce que je expliqué précédemment, il faut rajouter une implication supplémentaire, c'est-à-dire que pour moi, dans un voyage solidaire, il faut que le voyageur soit pleinement impliqué dans la nécessité sociale du pays, et nous, on l'était complètement là-bas au Sénégal, d'une part personnellement, parce qu'on y a apporté ce qu'on a pu apporter de notre histoire, de notre expertise par rapport au handicap, etc. Et aussi financièrement, parce que une partie du financement de ce voyage allait directement au projet de développement économique ou social du pays. Et d'autre part, un voyage solidaire, pour moi, c'est aussi l'implication de la population locale dans justement le développement de ces projets sociaux ou économiques. Donc c'est vraiment un accompagnement de la population vers un développement de ce qu'ils peuvent avoir en local, quoi, avec le respect de la nature, de la population, de la culture. Voilà, ça va être fort pour moi. Ce qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est d'une part tout ce qui est projets médicaux, on va dire, tous les hôpitaux de brousse, les cases de santé, etc. Je trouve que là, c'était assez flagrant que tout le corps médical essayait de soulever des montagnes avec rien du tout, essayait de faire vraiment tout ce qu'il pouvait pour apporter un minimum de soins à la population, répondre aux urgences, etc. Et d'autre part, on a visité également un orphelinat à Tambacounda et ouais, il y a une dimension très émotionnelle dans cette visite-là, avec une personne, la personne qui a monté, qui a suivi ce projet, etc., sur place, qui était vraiment une personne, une belle personne, quoi, très forte. L'impression que j'ai eue dès qu'on est rentré, c'était vraiment de sentir une grosse carence affective de ces enfants, parce qu'ils venaient très facilement vers nous, ils nous prenaient dans leurs bras, ils voulaient qu'on joue avec eux, etc. Donc c'était, voilà, je pense que du coup ça a donné une dimension émotionnelle un peu supérieure au reste. Mais bon, après c'est selon la sensibilité de chacun, parce que tous les projets étaient très forts, étaient très très intéressants. Les projets bien sûr liés au handicap ou à la déficience visuelle qu'on a visité, bien sûr ça m'a touchée, parce que personnellement je me sens impliquée là-dedans. Mais voilà, c'est pas forcément ceux-là qui m'ont le plus affectée, on va dire.
Parmi les projets solidaires, en fait, ça a été les rencontres, donc notamment avec l'association de Tambacounda, qui m'a beaucoup marquée, où là j'ai quand même pu constater réellement les besoins et difficultés qu'ils pouvaient avoir. Les gens, notamment sur Tambasossé, le poste de santé, etc., et sur Diala Koto, en fait, la visite des écoles, et qui réellement, là, on voit bien, en fait, que ce n'est pas du tout la manière dont on peut imaginer l'école, nous, chez nous en France. Parce que c'est vrai que chez nous en France, visiter une école, c'est quelque chose de bien cadré, il faut être à une heure bien précise, on rentre pas comme ça à l'école, tandis que là on sent bien que de toute manière on peut venir visiter, les enfants ils sont bien prêts à nous accueillir, etc. Enfin,
j'ai bien aimé l'invention du sac pour l'arrosage des plantes, parce que l'eau là-bas c'est précieux, donc pour éviter d'arroser tous les jours, ils ont inventé un sac. Donc on creuse un petit trou avec un outil qui perfore un peu la terre, et au pied de l'arbre on enfile le sac dans le trou avec la terre dedans, et on met de l'eau dans la terre qui est dans le sac, qui permet de seulement arroser tous les 2 à 3 jours. Donc une grande économie d'eau. Hein. Donc ça j'ai bien aimé. Mais sinon, vraiment, c'est j'ai beaucoup admiré cette femme qui est Géraldine, qui était justement la maman de Daba, qui était une de nos guides, pour ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait, ce qu'elle continue de faire pour ses enfants orphelins. Le centre, l'orphelinat qu'elle a monté, donc, et de cœur, à Tambacounda, ça, franchement, c'est une femme à un cœur d'or, quoi. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché.
Voilà, donc ce dont parlait Cédric, c'est le projet qu'on a vu notamment dans le Jardin des Femmes, je crois, et dans la bananerie, il me semble.
Un projet...
Donc ce projet pour économiser l'eau et pour permettre d'arroser moins souvent. Et puis on a vu également l'orphelinat et des cœurs dont on va parler juste après. Mais il y avait aussi on a vu la ferme école de Caïdera, où donc on apprend à des jeunes qui sont en difficulté à devenir des agriculteurs écologiques. Et c'est ce projet-là que j'avais envie de vous partager, parce que moi j'ai beaucoup aimé ce projet-là. Et puis on parlera ensuite des décœurs.
L'objectif, c'est un peu de refaire le sol, de recréer un microclimat avec le cocotier, de raffiner le sol aussi avec le système de raffinement du cocotier, donc qui fixe le sol et qui rehausse un petit peu la nappe phréatique. Et en 2007, en fait, il a ouvert le centre aux élèves, à une première promotion d'élèves. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment, son objectif de base, c'est vraiment de permettre à des gosses qui sont issus de milieux très défavorisés d'avoir une formation professionnelle et derrière en fait de s'installer en tant qu'élève fermier, en tant qu'entrepreneur du monde rural. Quoi. Mm-hmm. Donc du coup, il y a sur les 3 hectares, là, il y a environ entre une dizaine et une quinzaine de puits en fait, qui ont été creusés. Mm-hmm. Et chaque élève, en fait, en arrivant ici, donc a un puits et est responsable d'une surface d'environ entre 500 mètres et 800 mètres carrés. Mm-hmm. Et l'objectif, en fait, donc, c'est 3 ans d'internat. Et c'est que sur ces 3 ans, en fait, ils apprennent toutes les techniques de maraîchage biologique. Mmh. Et donc, en fait, il construit ses planches de culture autour de son puits. Et puis, il fait aussi de l'arboriculture, de la floriculture. Donc, l'arboriculture, en fait, il y a plein de pépinières, en fait, de petits cocotiers. Mmh. Donc, parce que c'est une forme de valeur ajoutée et c'est intéressant à ce niveau-là. Donc, en fait, l'objectif, c'est sur une saison, en fait, qui va de septembre à septembre prochain, c'est qu'il arrive à faire donc, du maraîchage, donc en gros de octobre à juin, mai-juin, ça dépend parfois, même arriver en avril, en fonction de la chaleur, ça devient compliqué. Qu'ensuite, il fasse de la culture hivernale, et en parallèle, il fera aussi du petit élevage, de l'arboriculture et de la floriculture. Mmh. En fait, l'avantage de l'arboriculture et de la floriculture, c'est que c'est moins de boulot et c'est une plus forte valeur ajoutée. Donc, par exemple, le cocotier, les marchés cocotiers sont intéressants sur chaque projet immobilier. Les gens sont intéressés par mettre quelques cocotiers dans leur jardin. C'est un arbre d'ornement, ça fait riche, ça décore, ça fait de l'ombre. Le fruit est plutôt sympa, donc voilà. Mmh. Et du coup, au bout de 3 ans de formation, en fait, on les installe sur 1 hectare de terre. Mmh. Où là, il y a une clôture, un puits, une petite case, une charrette, un âne, en fonction des moyens, avec le minimum de matériel agricole. Et le but, c'est qu'ils arrivent à devenir au moins autonomes du point de vue de l'alimentation déjà, et qu'ils arrivent à gagner juste assez pour réussir à se nourrir. Mmh. Et en fait, avec les multitudes de petites tâches, donc soit un peu de petit élevage, soit des moutons, soit ici on leur apprend à faire du lapin et des pigeons, parce que c'est des élevages qui n'est pas fait en temps normal ici. Du coup, ils se démarquent et c'est une forte valeur ajoutée. Mmh. Pareil, on essaie toujours un peu de trouver ce qui peut faire de l'argent plus facilement. Voilà. Et du coup, entre le petit élevage, la floriculture, les marchés de cocotiers, les maraîchages pour se nourrir, on apprend aussi à faire de la fraise, c'est intéressant. Et si on fait entre 15 variétés, on fait vraiment tout au maraîchage. On fait de l'oignon, de l'aubergine, des carottes, des fraises, on fait un peu de tout. Et l'objectif, c'est que ce soit une multitude de petites activités, ils arrivent à multiplier les revenus toute l'année, à travailler toute l'année, et à gagner plus d'argent, et ensuite à réinvestir leur argent.
Et donc, effectivement, ils réinvestissent après ce qu'ils ont économisé. Puisqu'en fait, dans ce projet-là aussi, il y a les jeunes, ils ont en fait on leur permet pas de tout dépenser. Hein, ils ont un compte épargne et puis sur lequel aussi ils mettent de l'argent pour pouvoir le réinvestir après. C'était la fin de ce reportage. Alors ça, c'est des reportages qu'on a pris avec le magnétophone, par contre, ces reportages sur la cocoterie. Et à l'orphelinat et des cœurs, quand on est arrivé... ce jour-là, il y avait une grande conférence de presse parce que des gens de la NBA venaient d'envoyer un conteneur à Tambacounda avec tout un tas de matériel dedans. Et j'ai pu interviewer un des représentants qui était là, un des basketteurs qui était là, Ousmane Diatta. Et donc, je vous propose cette petite interview exclusive, j'allais dire. Allez. Voilà, donc je suis en compagnie de Ousmane Diatta, qui, avec la NBA, dont il est membre, a donné un certain nombre de matériel pour un orphelinat au Sénégal. Et donc,
qui va nous expliquer un petit peu le but de son travail.
Oui, je vous remercie de m'avoir tendu le micro pour parler de notre organisation et du matériel de don que nous venons juste de remettre à ces enfants et d'une manière générale à la commune de Tambacounda. Nous sommes une organisation non gouvernementale basée aux États-Unis. Ma femme et moi, nous avons initié une organisation appelée Organisation africaine pour le développement académique et sportif. Nous utilisons le sport comme un moyen, une ressource pour pouvoir combattre les fléaux sociaux que rencontrent les différentes communautés, surtout les plus vulnérables au niveau du Sénégal et de la sous-région africaine.
Et donc, dans le matériel que vous avez offert, qu'est-ce que vous avez donné ?
Nous sommes des sportifs. Ma femme a joué dans la WNBA, moi j'ai été basketteur. Nous avons donné du matériel sportif, des chaussures, des ballons, des maillots. Et nous avons aussi donné du matériel médical à l'hôpital régional de Tambacounda, celui de Ziguinchor la semaine dernière. Mais pour Tambacounda, il y a le district sanitaire aussi avec la commune. Il y a aussi, au niveau des dons, nous avons pensé aux handicapés physiques avec l'association des victimes des mines au niveau de la Casamance et le centre des handicapés au niveau de Tambacounda. Il y a aussi du matériel scolaire. Tant plus qu'on parle d'éducation, nous avons jugé nécessaire de faire un don en fourniture scolaire. Il y a du matériel des bébés, ce qu'on appelle le paquet du bébé, qu'on a pu remettre au niveau de l'orphelinat et de cœur, et aussi au niveau de la maternité dans les différentes zones que nous avons visitées au Sénégal.
Et pourquoi vous faites cela ?
Nous sommes des philanthropes et nous utilisons le sport, comme j'ai eu à le dire un peu plus tôt, pour pouvoir participer à aider ces couches vulnérables. C'est pourquoi c'est notre vision des choses. Nous devons de participer et c'est une façon de participer.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
Voilà donc Ousmane Diatta qui avait apporté avec ses collègues de la NBA tout un conteneur avec du matériel qui était distribué dans divers endroits. Et notamment à Ziguinchor. Et Ziguinchor, c'est un endroit en Casamance où ICD a de nouveaux projets, puisqu'ils sont sur la province de Tambacounda, mais ils vont aussi se déployer en Casamance. Et je pense que Henri va donc aller prochainement en Casamance, ça je le sais. Et puis ensuite, peut-être que des voyages pourront aussi se développer par là, qui sait. Dans un pays qui bouge un petit peu, mais enfin qui est quand même... Voilà. Oui, il y a des endroits où il vaut mieux pas mettre les pieds en Casamance. Ouais, maintenant, à Ziguinchor, apparemment, voilà, c'est tranquille.
C'est ça, il y a des endroits où on peut quand même y accéder.
Alors, quand même, pour ceux qui souhaiteraient quand même intervenir, on peut rappeler le numéro de la radio, puis dire qu'aussi, on est sur Radio Galère, dans Handicap Tribune, où on fait une rétrospective de notre voyage au Sénégal. Le numéro de l'antenne, c'est le 04 91 08 28 10. Et vous pouvez nous contacter jusqu'à 9h30, puisqu'après...
Si je peux me permettre, n'hésitez pas à aller sur le site d'ICD Afrique pour voir leurs projets, voir ce qu'ils font, parce que c'est vraiment bien. Nous, on a vu ça et donc on sait comment sont utilisés les dons. Et voilà, quoi, c'est pas...
Oui, tout à fait.
Voilà, donc...
Tout à fait. C'est une petite association qui mérite vraiment d'être soutenue. Mais ça ne veut pas dire que les grandes ne le méritent pas, mais ça veut dire que là, au moins...
Mais comme nous, on a vu comment ça se passe.
On sait comment ça se passe.
En connaissance de cause, du coup. N'hésitez pas.
Une pause avec...
Avec donc Ladismix Black Mambozo.
Ah, oh, j'adore.
Ronk Amelo.
Usofika njengonyazi lwezulu oluvela empumalanga lukhanye luze lufike entshonalanga ungamehlo azokumbona
Voilà, donc tu peux répéter le pas le titre, parce que c'est un peu compliqué, mais le nom du groupe.
Ladies Smith Black Mambozo.
Voilà, donc avec une pause qui...
Si tu m'entends.
Ouais, qui vraisemblablement nous entraînait en Afrique du Sud, vu les voix, ça me paraît assez...
Oui, c'est l'Afrique du Sud. Enfin, je suis quasiment sûre.
Voilà. Donc, nous revenons plus au nord, au Sénégal, toujours, à Tambacounda. Et cette fois-ci, on va parler de l'adaptation du séjour, parce que ce séjour-là était donc adapté pour des personnes déficientes visuelles. Mais ça veut dire quoi, adapté pour des personnes déficientes visuelles, Angélique ?
Justement, c'était la grande inconnue du voyage. On connaissait l'initiative et on savait qu'on allait être reçu par des guides qui avaient eu une formation. Mais on ne savait pas du tout ce que ça allait donner. Et finalement, on a été reçus donc, par ces guides et guidés et accompagnés. Ils ont été très présents. Ils ont bien répondu à nos besoins, à nos attentes. Et pourtant, moi, j'ai été très, très agréablement surprise par leur capacité, parce que pour le minimum de formation qu'ils avaient eu et pour le peu de connaissances du handicap visuel, je trouve qu'ils s'en sont vraiment bien sortis. Autant humainement que, enfin c'est mon avis, hein, que dans la technique.
Moi, le gros souci que j'avais, c'est que je confondais toutes les voix d'hommes. J'arrivais pas à mettre, un nom sur chaque personne. C'était catastrophique.
Ah non, moi,
et les femmes, c'était pareil. Et alors, quand elles étaient ensemble, quand ils étaient ensemble, les hommes, j'arrivais à les distinguer les uns des autres. Et quand ils étaient pris à part, j'y arrivais pas. Et du coup, ça m'a beaucoup handicapée dans la relation que j'ai pu avoir, parce que
c'est dommage.
Évidemment, quand on a peur de ce goût, quand on sait pas la voix, on n'ose pas dire un tel à la place d'un tel, parce qu'on pense se passer pour un couillon, et du coup ça casse un peu la relation, quoi.
C'est vraiment
un peu
dommage.
Compliqué. Ben, on va voir un peu ce que pensent les autres collègues de toute cette adaptation du séjour. Et est-ce que c'est un séjour pour tout le monde aussi? C'est ça que je leur ai posé comme question.
D'accord, ok.
Très à intégré dans le voyage. Pour vrai, au début, donc il n'y avait que 3 accompagnateurs, donc guides du Sénégal pour les déficients visuels. Et du coup, nous, on faisait, nous, les accompagnateurs solidaires, on accompagnait aussi les déficients visuels. Et ensuite, à la fin de la première semaine, il y a eu 6 guides. Du coup, là, c'était un peu difficile de trouver, de savoir si on devait aider aussi à faire les guides, si on devait rester à notre place pour pas prendre la place des autres. Voilà, c'était juste, il y a eu une petite difficulté, mais qui s'est vite, voilà, on en a parlé tous ensemble, et c'est vite, ça a vite passé. Mais sinon, je trouve que toute l'équipe arrivait à faire les uns et les autres avaient leur place, quoi. Et il n'y a pas eu de souci, j'ai trouvé ça même très riche. C'était ma première expérience, je ne savais pas du tout comment faire, et c'était même très intéressant d'essayer d'accompagner, et qu'en retour, les personnes m'expliquent comment faire et ne pas faire. Le voyage a été doublement riche parce que je suis allée en Afrique, et en plus j'ai rencontré des déficients visuels et qui m'ont appris à sentir les choses d'une autre manière, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est d'expliquer tout ce que je voyais.
J'ai été très surpris à l'arrivée à Dakar, la manière que les guides nous ont abordé. On aurait dit qu'ils avaient déjà travaillé avec des déficients visuels. Ils savaient, certes, qu'ils ont eu la formation, mais faire la formation, pratiquer un petit peu, mais après être sur vraiment la réalité des choses, j'ai vu qu'il y avait eu un gros travail de fait par Boubacar et Jules et d'autres personnes qu'on n'a pas connues pour cette formation. Et franchement, oui, on était bien encadrés. 6 guides à un moment du séjour, plus les voyageurs qui sont venus de France avec nous, plus également les personnes qui nous accueillaient. Donc c'est vraiment, je pense, un voyage qui était bien adapté pour nous. Et on sentait vraiment en sécurité. Et les gens, ils étaient vraiment là si on avait une difficulté et tout. Donc franchement, je me suis senti vraiment bien encadré.
J'ai déjà fait des voyages adaptés avec des associations françaises traditionnelles, mais c'était pas du tout le même contexte. Hein. Forcément, ce qui était fait là, au travers de ce voyage, c'était complètement inédit. De former des gens sur place à l'accompagnement des personnes déficientes visuelles, je pense que même en France, les associations françaises ne le font pas. Quand ils font appel à des accompagnateurs dans des voyages adaptés, voilà, c'est des personnes comme vous et moi, j'allais dire, ils ne sont pas formés pour ça. Donc là, ça a été une grosse différence. Et puis les personnes qui nous ont accompagnés là-bas sur place, c'était des personnes, des locaux forcément. Donc ils avaient énormément de choses à nous apprendre sur leur pays, sur leur culture. D'autant qu'il y avait des personnes qui étaient quand même des professionnels du tourisme, qui étaient guides touristiques par ailleurs. Donc ils s'y connaissaient beaucoup en matière de faune, de flore, voilà, tout ce qui a trait à leur pays. Des personnes qui n'étaient pas forcément non plus des professionnels du tourisme, mais qui avaient des profils tellement différents, qui nous apportaient tous des choses très différentes et très complémentaires. Il y avait une jeune fille qui était encore étudiante, qui pour moi représentait un peu le Sénégal moderne ou contemporain. Là, donc on pouvait projeter un peu le futur du Sénégal en elle. Il y avait une femme très... qui faisait un peu maman africaine, qui prenait vraiment soin de nous, qui nous apprenait les petits trucs et astuces de ce qui s'apprend entre femmes là-bas au Sénégal. Donc ouais, ça a été des profils très complémentaires, et je pense que c'est ce qui a fait la richesse de ce mode de, d'accompagnement et de ce qu'on a pu apprendre au travers de ces gens-là, quoi.
Ce qui était de fait agréable, c'est que du coup, il pouvait y avoir un voyant par déficient visuel, parce que en effet, ça paraît difficile quand il y a un voyant pour deux, trois non-voyants, comme on peut le rencontrer dans certaines associations. Qui, de toute manière, j'ai envie de dire, au Sénégal, c'est, vu les conditions qu'il peut y avoir dans les rues, etc., ça pouvait être en effet difficile et qu'un seul voyant doive guider plusieurs déficients visuels. Même si ça pouvait se faire à certains moments, mais c'était pas fait de manière régulière. C'est la deuxième fois que je fais un séjour avec des guides locaux, puisque j'étais déjà partie avec une autre association au Maroc où on avait été dans le Haut Atlas, où là c'est pareil, ils avaient vraiment formé des guides en fait pour les déficients visuels. Et c'est très bien parce que on échange bien davantage et au cours de conversations diverses et variées, on peut en effet apprendre bien plus de choses que si on était avec nos guides français, on va dire. Un séjour comme ça, à mon sens, n'est pas fait pour tous les déficients visuels. Parce qu'en effet, il faut quand même être suffisamment autonome Alors, pourquoi être suffisamment autonome? Parce que quand il n'y a notamment pas forcément les sanitaires dans les chambres, etc., certains déficients visuels pourraient être très très vite perdus. Et je pense aussi que ça demande pour tout le monde, mais aussi pour certains déficients visuels, une facilité d'adaptation. Ce que d'une manière générale l'ensemble de la population n'a pas, puisque tout le monde n'est pas prêt en fait à s'adapter facilement aux conditions, à la population, au rythme de vie, etc. Et pour certains déficients visuels qui ne sont pas forcément sortis ou qui ont toujours fait que des voyages touristiques, qui n'osent pas trop aller, qui sont habitués à un certain cadre et jamais forcément trop changé, ça pourrait être très difficile. Donc je pense qu'en effet, il faut de l'autonomie et une capacité d'adaptation relativement importante.
Pour une première, franchement, il y a quand même beaucoup de choses positives qui ressortent. Je pense que à la fin, les guides, ils étaient un peu fatigués et ça se ressentait, ça se voyait. Ils étaient un peu moins concentrés dans certaines situations. Et je pense que c'est un séjour assez pesant quand même. C'est, on fait pas mal de kilomètres, on fait beaucoup de choses, tout. Et guider quelqu'un, ça demande de la concentration également. Donc, je pense que c'est dommage que ça n'a pas été fait comme le début, avec trois guides au départ et trois guides vers la fin. Je pense que ça aurait pu permettre à nos deux guides, donc Daba et Mariama, qui ont continué avec nous, peut-être qu'elles puissent un peu plus souffler, parce que on leur a demandé beaucoup, et vers la fin du séjour, c'est vrai, c'est comme je le dis, c'est épuisant, quoi. Après, c'est amélioration en termes de structure là-bas. Je pense au campement, je me rappelle plus du nom, dans le parc du Nyokolokoba là. Moi j'ai trouvé ce campement qui dénaturalisait l'endroit très naturel, quoi. C'est difficile aussi de trop s'imposer, sachant qu'on n'est pas chez nous, tout. Donc on s'adapte, c'est à nous de s'adapter aussi aux conditions de vie là-bas, quoi.
Peut-être juste d'expliquer peut-être plus aux voyageurs solidaires d'un projet comme celui-ci, donc les voyageurs solidaires qui sont voyants, leur positionnement, savoir ce qu'ils viennent, voilà, ce qu'ils viennent faire. Et il faudrait que l'année prochaine ou l'année d'après, qu'il y ait encore des voyages comme ça, et que ça ne se finisse pas sur un voyage, et qu'il y ait, des projets qui continuent suite à ça.
Voilà donc ce que c'était que cette adaptation du séjour. On va peut-être squeezer la pause Myriam Makeba, parce que, enfin, en tout cas, la passer peut-être plus tard si on peut. Et surtout, je voudrais quand même que vous entendiez ce qu'on a pu prendre à l'école des aveugles de Thiès, parce que c'est quand même important aussi que vous sachiez un petit peu ce qui se passe là-bas en termes de non-voyants, comment ça se passe, les personnes handicapées, comment ça se passe. Et donc, je vous propose une prise tirée d'une vidéo avec donc la visite de Thiès, la visite de l'Institut des jeunes aveugles de Thiès, avec notamment le directeur de cette école qui est là depuis 2 ans maintenant, je crois, et qui donc nous a consacré du temps.
École nationale de formation des jeunes aveugles de Thiès. Le groupe vient d'arriver, il est midi, on est à Thiès, ben de Kinyari Gare. Tu sais ce que cela veut dire?
Non.
Ben de Kinyari Gare, cela veut dire une ville avec deux gares.
Deux gares?
C'est la seule ville au Sénégal qui s'appelle comme ça.
Preuve de développement?
Non, parce que ici c'était la capitale des chemins de fer, Dakar, Niger. Voilà. Donc, on l'appelle Bernadette Kunyariga. Voilà.
Et là, c'est 10 pensionnaires par chambre. Ça, c'est des lits.
Salam alaikum. Nayan Def, Jamrek, Alhamdulillah. Nayan Am Aïgal, Udio de France. Waouh. Nous avons aussi. Lu ngeen am lolu lañ am voilà donc dañu ñew tay pour sétsi len xam école bi waxtaan ak yeen voilà ngir mëna échanger vraiment ci jafé jafé yi yu ngeen am ak ñom aussi nu ñu mel feulé
ça va bien voilà madame ça va bien
Ah ok.
Ça c'est le répertoire. Et c'est attelé à la cuisine.
Il y a combien de maisons? Combien d'enfants pour vous accueillir?
Environ 160. Nous accueillons de 6 ans à 18 ans.
D'accord. Et c'est un internat. D'accord, il n'y a pas d'externat.
Il n'y a pas d'externat.
Tous les enfants qui viennent de
Tous les enfants sont là.
Et ils suivent une scolarité
normale.
Normal, d'accord.
C'est-à-dire qu'ils suivent le programme de l'enseignement élémentaire du Sénégal.
D'accord.
S'ils arrivent au niveau du cours moyen, deuxième année, CM2,
oui.
Ils font l'examen d'entrée en sixième pour aller intégrer l'enseignement moyen. Quand ils auront le BFM, le brevet de fin d'études moyennes, ou au lycée.
Donc, ils sont bien accueillis dans les collèges?
Oui, ils sont bien accueillis quand même. Parce que aussi, nous avons des enseignants qui les suivent au niveau de l'intégration.
D'accord.
Arrivé à la terminale maintenant, ils font le bac. Bon, c'est là maintenant où il y a des problèmes au niveau du Sénégal. Après le bac, il n'y a pas de structure adaptée à leur handicap. Ce qui fait que souvent, ils sollicitent des préinscriptions au niveau des universités étrangères, notamment la France, surtout la France. Hein. Il y en a qui vont dans les pays du Maghreb, comme la Tunisie, et c'est pas beaucoup. Et d'ailleurs, ils préfèrent, eux, aller en Europe surtout. Mm-hmm. Bon, pratiquement cette année, on a eu 7 bacheliers et qui courent derrière une préinscription. Parce que ils avaient suicidé, mais leurs demandes ont été rejetées. Ce qui fait que le ministère est en train de revoir comment avoir une dérogation. mais ça a pris un peu de retard, ce qui fait qu'ils sont encore en attente. Voilà.
Et pour ceux qui ne peuvent pas, aller à ce niveau-là, qui ne peuvent pas atteindre ce niveau-là, qu'ils font?
On a des options. C'est-à-dire que c'est ce qui ne parvient pas au niveau du bac. On leur propose de faire la formation professionnelle, pour au moins sortir ici avec un métier, un savoir-faire. Ils sont formés en téléphonie,
ouais.
Ils sont formés en tissage et en brousserie.
Et après, ils arrivent à travailler en
fait. Voilà, là également, il faut dire que c'est un problème. Souvent, ils sont formés, mais quand ils sortent, ils ont un problème d'intégration.
Ouais.
Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acquérir du matériel qui leur permet de travailler en toute autonomie. Mmh. Et également, il n'y a pas de structure qui puisse les employer. Ce qui fait que le plus souvent, après la formation aussi, bon, ils retournent chez eux et pratiquement pour ne rien faire. Hein.
Et il y a quand même un suivi après quelques mois, leur sortie d'ici de l'Institut par les professionnels.
Là également, il faut dire qu'il n'y en a pas. Après leur sortie, pratiquement, ils sont après laissés à eux-mêmes. Ça, il faut oser le dire. Ils sont laissés à eux-mêmes.
Et est-ce qu'il existe des aides, des pensions, ou est-ce qu'ils vivent un petit peu
chez
de la famille?
Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Ouais.
Le fonctionnement de l'école, c'est assuré par l'État.
D'accord.
Ils sont là en internat jusqu'en terminale. C'est-à-dire c'est ce qui répond aux critères. Parce que souvent, il y en a qui ne peuvent pas suivre les études.
Mm-hmm.
Et quand on sait qu'ils ne passent les études, s'ils sont par exemple renvoyés au niveau des établissements d'intégration, nous, on ne peut plus les accueillir ici.
Mm-hmm.
Bon, également, si un enfant reste ici et qu'il ne parvient pas à décrocher également le ticket qui lui permet d'aller en second, enfin, dans l'enseignement moyen, là aussi on est obligé, soit de le verser dans l'enseignement professionnel, ou bien de le virer carrément de l'école.
Tous les enfants déficients visuels peuvent intégrer l'école, parce qu'en fait, ceux qui habitent loin, c'est peut-être pas évident, parce que pour arriver jusque-là, ça, c'est un coût.
C'est un coût.
Ah,
mais c'est-à-dire que le système adopté ne permet pas vraiment d'intégrer beaucoup d'enfants handicapés. Parce que les dossiers sont là, mais l'école a un seuil qui ne peut pas dépasser. Nous avons 160 lits. Et également, il y a un budget qui accompagne l'existence ici. On ne peut pas prendre plus. Et cette année même, après le recrutement, on a essayé de sensibiliser certains parents qui sont ici au niveau de Thiès pour leur dire, pour laisser de la place à d'autres,
mm-hmm.
est-ce qu'il ne fallait pas laisser vos enfants venir apprendre et le soir retourner chez eux?
Mm-hmm.
Mais M. Gué, lui, il comprend. Au Sénégal, souvent, les familles sont démunies et il saisit l'occasion quand même de se décharger un peu, excusez-moi le terme,
pour
les enfants. Parce que ici, ils sont là, ils sont pris en charge entièrement par l'école. Même sur le plan sanitaire, c'est public, effectivement, si les gens ne payent rien. Voilà pourquoi les parents, quand même, quand leurs enfants sont retenus dans le recrutement, ils préfèrent les laisser ici. Mais si par exemple ce système-là a été adopté, l'école pourrait accueillir un plus grand nombre de pensionnaires.
Sinon, il y a des activités aussi,
autres que. Oui. Bon, surtout cette année, on a recruté un animateur culturel. Vraiment, il y a d'autres activités comme le théâtre, des ateliers de musique, et tant d'autres activités qui leur permettent quand même d'intégrer la société. Il faut avouer quand même que ça n'existait pas ici, ce qui fait que les enfants étaient plus ou moins isolés. Ils étaient plus ou moins isolés parce qu'après les études, ils ne faisaient rien. Et maintenant, après les études, ils sont accueillis par cet animateur-là qui essaie de faire avec d'autres activités qui ne sont pas des activités de l'enseignement apprentissage.
L'Institut de Thiès existe depuis quand?
Depuis 1982. C'est à l'initiative d'une Union nationale des aveugles du Sénégal. C'est elle, avec l'appui de l'État, qui est parvenue quand même à construire les locaux.
Mm-hmm. D'accord.
C'est pas l'État sénégalais qui a construit les locaux, mais c'est une association d'aveugles, n'est-ce pas? Bon, qui a eu quand même des lettres d'entrée au niveau des gouvernements des pays arabes et une partie de quelques pays, une partie des pays européens qui ont financé la construction de l'institut. Mais après, maintenant, ils ne pouvaient pas faire fonctionner l'institut parce que c'était un coût lourd. Le budget était un coût lourd. Et maintenant, l'État s'est substitué à eux et c'est l'État maintenant qui assure le fonctionnement.
Il y a un service médical, socio
médical. Il y a une infirmerie pour les premiers soins. Quoi. Maintenant, si par exemple le cas est plus ou moins sérieux, on l'évacue au niveau de l'hôpital.
Oui, peut-être.
Ça va sauter.
Ça va sauter.
Ça va sauter. Oh, d'accord. Rechante, je vais apprendre avec toi.
Adama, Adama, ça va sauter.
Ah, super! Ça y est, je connais la chanson avec toi!
Oui, comme elle a raconté.
Voilà donc le compte-rendu de la visite de l'Institut des jeunes aveugles de Thiès au Sénégal. On va passer tout de suite aux perspectives parce que le temps presse et que voilà. Puis on mettra en finale les deux pauses, comme ça au moins vous les aurez quand même. Parce que voilà. Donc les perspectives, c'est-à-dire que bon, ben on est parti au Sénégal, Angélique, moi, Marie-Laure, Cédric, Myriam, Roxane, Sylvain, je crois que j'ai oublié personne.
Violaine.
Et Violaine. Et donc on ne compte pas en rester là, hein, parce que c'est bien gentil d'être parti, on est revenu, mais on ne va pas les laisser tomber comme ça. Et bon, voilà ce que disent un peu tout le monde. On va écouter un petit peu les projets qui sont un peu derrière.
Quant à une collaboration, oui, bien sûr, parce que de toute manière, déjà, ICD Afrique œuvre sur un certain nombre de choses, telles que notamment pour l'aide pour les écoles, pour les postes de santé, pour ils ont ICD Afrique aussi aide notamment pour la réalisation du jardin des femmes qu'on a pu visiter, etc. Je pense qu'il va se développer d'autres partenariats avec l'école de Thiès. Donc l'école de Thiès étant une école accueillant des déficients visuels au Sénégal, d'ailleurs la seule école du pays. Mais moi j'aimerais bien, et pour en avoir beaucoup discuté avec Henri Dalbiès, qui est donc le président d'ICD Afrique, et Cédric qui est parti avec nous, en fait pouvoir aider l'association des déficients visuels de Tambacounda afin de pouvoir mieux insérer socialement déjà les personnes en situation de handicap. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les personnes sont vouées à la mendicité pour déjà pouvoir manger à leur faim, ou à peu près à leur faim. Alors que mon but, en fait, ce serait de pouvoir justement leur faire faire certaines activités manuelles, bien sûr, en vue de pouvoir insérer socialement et qu'ils puissent vivre, en fait, de leurs objets manuels et non plus vivre uniquement que de la mendicité. Je donne un exemple. On a quand même pu constater que les femmes portaient beaucoup de colliers au Sénégal. On pourrait tout à fait voir des déficients visuels et faire des colliers qui puissent évidemment les vendre comme les femmes peuvent le faire. Ça pourrait être d'autres activités artisanales telles que la création de paniers. Hein, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses en genre d'osier, rotin, etc. qui étaient faites. C'est vrai que de telles choses se font en France de manière même professionnelle, hein, puisqu'en France il existe une formation professionnelle reconnue par le ministère du Travail et qui est la formation de rempaillage canage. En fait, on pourrait tout à fait imaginer que pour vivre ou survivre, il crée des objets en osier, en rotin, etc., des corbeilles, des paniers et pourquoi pas des chaises, puisqu'on a quand même pu voir qu'il y avait un certain nombre de chaises, de petits meubles comme ça qui étaient faites dans cette matière.
Ça, c'est clair, tu l'as bien dit, je ne compte Pas du tout, moi. On a arrêté là. Parmi les différents projets que ICD Afrique soutient, donc je me suis dit pourquoi pas aller sur un projet en restant dans le monde du handicap, donc TIES par exemple. J'avais aussi l'idée de peut-être soutenir le projet de la du poste de santé de Tambasose, qui est un peu en stand-by. Avec du recul, j'ai vu que sur Tambacounda, les déficients visuels, entre autres les personnes handicapées, quoi, ils avaient énormément de besoins. Je pense que l'idée de Marie-Laure est une, vraiment une très bonne idée, donc je la rejoins et je vais m'investir dans ce projet. Je ne laisse pas tomber l'idée que j'avais dit au départ sur le poste de santé. Je vais peut-être moins m'investir, mais j'essaierai de récupérer du matériel médical pour ce poste de santé. Et bien sûr, je compte retourner au Sénégal. Si ce n'est pas l'année cette année, ça sera peut-être l'année prochaine.
C'est un voyage qui, de toute façon, ne laisse pas indifférent et on n'en revient pas indemne. Hein. Mon objectif a été atteint dans la mesure où je voulais découvrir la vraie Afrique, hein, l'Afrique de la brousse, l'Afrique profonde mais sans aucune... c'est pas négativement que je dis ça, mais au contraire. Et je me suis dit en rentrant que bon, il fallait que je m'accorde le temps de la digestion de ce voyage pour voir comment je voulais y donner suite, parce que je ne peux pas en rester là, ça c'est évident. Et bon, là, ça fait quoi, à peine plus d'un mois qu'on est revenu, donc je pense qu'il serait temps que je me remette bien les idées en place, mais je vois différentes manières de donner suite à ce voyage. D'une part, de rester en contact avec cette association, ça c'est évident pour moi. Ensuite, il y a des moyens faciles, entre guillemets, qui sont de continuer à contribuer financièrement au développement de l'association et des projets qu'elle soutient, et puis ensuite essayer de travailler plus précisément avec un projet ou un autre. Et puis ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, au travers de ce mode de voyage et d'accompagnement complètement inédit, comme je l'avais dit, c'est que ça ouvre aussi le champ des possibles pour nous, déficients visuels, et d'essayer de reproduire ce type de voyage, quoi. Que ce soit avec cette association-là, bien sûr dans l'idéal, ou même ailleurs. Ça a été quelque chose de nouveau, d'inédit, qu'il faut poursuivre dans cette voie-là.
Ah, moi, c'est certain que j'y retournerai. Et dès que, voilà, pour l'instant, j'ai pas de projet, moi, personnellement, mais dès que ICD Afrique, peu de gens sur les projets, moi je le soutiendrai à 100%, ce projet-là surtout, avec les déficients visuels, sur tel ou tel partenariat, je serai vraiment prête à accompagner. J'ai vu le début et ce partenariat, il ne faut pas qu'il finisse.
Quelle plus belle conclusion on peut trouver à une émission comme ça. Ce partenariat ne doit pas finir. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis en conclusion, parce que c'était tout à fait ce qu'il faut dire, je crois. Hein. On ne va pas en rester là et je pense qu'on aura l'occasion de reparler des divers projets qui vont suivre. Je ne sais pas si Marie-Laure arrivera à concrétiser ce qu'elle veut, mais pourquoi pas, après tout... Bon, des activités manuelles et quelque chose qui pourrait ressembler à du travail à domicile et qui permettrait aux personnes déficientes visuelles qu'on a rencontrées, ou en tout cas à ceux qui leur succéderont, parce qu'elles étaient relativement âgées, ces personnes-là. Donc peut-être qu'elles, elles prendront pas part, mais peut-être que des gens plus jeunes sauront faire. Et puis bon, on peut pas non plus ne pas parler de ce voyage sans faire un petit clin d'œil quand même en finale à l'artiste malvoyant que nous avons rencontré aussi, ah oui. Saliou Diop, qui est un sculpteur, un peintre oui. D'un très grand talent, qui a malheureusement perdu la vue dans un accident du travail, en fait.
Oui, et qui utilise des matériaux recyclés pour ses œuvres d'art.
et qui fait vraiment du très, très, très beau travail, de très beaux ouvrages. J'espère que sur ICD, il y a des photos de ses œuvres. En tout cas, s'il n'y en a pas, je vais les inciter à en mettre. Parce que franchement, c'est tout à fait remarquable.
C'est un homme qui a des projets aussi de formation pour des jeunes, dans la musique, dans l'art.
C'est quelqu'un qui parle d'avenir quoi, voilà, pour les déficients visuels au Sénégal. Mmh. Alors que beaucoup des personnes qu'on a rencontrées dans l'association qu'on est allé voir, ils étaient leur grand souci, c'était d'abord de s'alimenter, hein, de pouvoir manger demain. Et puis leur second souci, c'était que il y a une loi au Sénégal qui a été votée par l'Assemblée pour une sorte de loi d'orientation en faveur des personnes handicapées. Et cette loi-là attend toujours de pouvoir être promulguée parce que Monsieur le Président de la République n'a pas ratifié les décrets, n'a pas signé les décrets qui permettraient de mettre la loi en application. Et ben voilà, c'est à cause de ça qu'il y a des choses qui ne se font pas. C'est bien dommage. Et on peut espérer que les élections approchant, Monsieur le Président de la République Awad veuille bien signer, ou peut-être son successeur, on verra bien, ou peut-être lui-même s'il est réélu, qui sait, on ne sait jamais. Après tout, les gens peuvent. Puis on verra bien de toute façon qui va prendre la suite. Mais en attendant, ce qu'il faut, c'est sûr, c'est que cette loi soit promulguée, parce que si elle n'est pas promulguée. Déjà, quand une loi est promulguée, il y a déjà des difficultés pour la mettre en application. Alors, si elle n'est pas promulguée, c'est encore pire. Voilà. Alors, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque le temps est un petit peu même dépassé. On aura, je pense, l'occasion de revenir sur ce voyage parce que j'aurais voulu avoir les témoignages aussi des guides.
Et puis tout n'a pas été dit.
Et puis tout n'a pas été dit, loin de là. Et puis, de toute façon.
15 jours si intenses en une heure et demie.
C'est très difficile.
Tous les projets d'avenir et toutes les perspectives, c'est pas évident de tout caser là.
Tout à fait. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Puis de toute façon, on va faire un reportage plus long, je pense, qu'on mettra aussi sur le site. Cette émission, naturellement, va être mise sur le site. Rapidement, parce que justement Violaine m'a bien fait comprendre qu'il fallait le faire vite dès qu'on l'aura pour pouvoir être crédible auprès des bailleurs de fonds d'ICD Afrique et puis auprès des auditeurs aussi, de ceux qui n'auront pas pu écouter aujourd'hui. Eh bien, on est toujours là, Handicap Tribune, et on continue d'être là, et on attend vos réactions, et on attend vos collaborations, et on attend vos sujets, et on attend tout ce qui peut être constructif venant des auditeurs, venant des animateurs. Enfin bref, n'hésitez pas à vous servir du formulaire de contact qui est sur notre site. Et puis, on va vous laisser avec les deux pauses finales, donc. D'une part, Myriam Makeba.
Avec Koulala, pardon.
Et puis, d'autre part.
Jean de Dieu, avec Soa Manatena.
Voilà, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Kaine mungoro Thank you. L'association La Luciole présente Handicap Tribune, magazine de libre expression des personnes handicapées et de leurs associations. Au micro, Dorothée et Philippe, avec à la technique l'efficace complicité de Silly. We'll be right back.